Et c'est la chronique de Monique Quirois qui nous parle aujourd'hui des allergies. Pourquoi les allergies explosent, Monique?
Oui, alors, comme je le disais en présentation, c'est une véritable pandémie. On pense aux éternuements, au nez qui coule, aux démangeaisons, à l'asthme et aux autres yeux larmoyants. Aujourd'hui, Hélène, 25 à 30 des Français et des Françaises souffrent d'allergies. Et du côté du Canada, c'est un petit peu moins. En fait, c'est entre 20 et 25 des Canadiens qui ont des allergies saisonnières ou encore des allergies alimentaires. Alors, comment on en est arrivé là? Ben, on a posé, c'est la journaliste Éloise Rambert qui a posé la question aux experts.
Éloise ou Héloïse?
Éloise, pardon.
Ah, Éloise, OK.
Oui.
Comme Éloise. Le cirque Éloise.
Oui, oui, c'est ça, exactement. Alors, il semble que ce n'est que le début. L'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'en 2050, la moitié de la population mondiale sera allergique. Il y a 100 ans, il s'agissait seulement de 1 à 2 % de la population. À partir du milieu du 20e siècle, il semblerait que c'est là que tout s'est emballé. La peau, le nez, les yeux, le tube digestif, aujourd'hui, tous les organes sont touchés. Le début de la forte augmentation de l'asthme, de la dermatite atopique et de la rhinite allergique remonte aux années 1960. Et une seconde vague, marquée par une hausse des allergies alimentaires et des hypersensibilités médicamenteuses, a débuté après les années 2000. Globalement, on comprend ce qui se passe. Les maladies allergiques sont causées par un dérèglement du système immunitaire qui correspond à une absence ou à une perte de tolérance vis-à-vis de substances a priori inoffensives, les allergènes. Ce système immunitaire les reconnaît alors comme étrangères et pathogènes. Pourquoi ce dérèglement touche-t-il tant de gens de plus en plus? Bon, comme on le disait en introduction, c'est toute la question. De nombreuses théories ont été proposées. Une en particulier fait son chemin depuis les années 1980. La théorie dite de l'hygiène. La progression de ces affections serait la conséquence de notre tendance à nettoyer nos intérieurs avec une kyrielle de produits d'entretien pour la maison et le linge, riches en détergents et autres enzymes gloutons qui lavent plus blanc que blanc.
Des enzymes gloutons.
Oui, c'est joli. C'est entre parenthèses, c'est entre guillemets. Oui. Mais c'est une jolie expression.
Image, oui, oui.
Et de manière plus générale, de notre vie dans un environnement nettement plus aseptisé. Notre système immunitaire n'aurait pas eu le temps de s'adapter. Lorsque les infections ont commencé à se raréfier, grâce également aux antibiotiques et aux vaccins, le système immunitaire s'est tourné vers d'autres molécules de notre environnement plus anodines. Dès 1989, un chercheur anglais, David P. Strachan, montrait que le nombre de rhinites allergiques était moins important dans les familles nombreuses où les infections sont plus fréquentes. Puis, au fur et à mesure, les données scientifiques se sont accumulées. Au milieu des années 1990, une équipe de scientifiques de l'Université de Munich a constaté que les allergies étaient plus courantes en ex-Allemagne de l'Ouest qu'en ex-Allemagne de l'Est, où les intérieurs et un mode de vie moins occidentalisé favorisaient le contact des enfants avec infections et allergènes. En 2007, ce sont des chercheurs français qui ont ensuite mis en évidence le rôle protecteur de la vie à la campagne et l'exposition aux animaux domestiques dans la petite enfance au regard de l'allergie chez l'adulte. Énigme scientifique résolue? On est loin de là. Des pièces du casse-tête manquent encore. Plusieurs limites discutées ces dernières décennies suggèrent que cette théorie n'explique pas entièrement le phénomène. Par exemple, l'assainissement de l'eau a été mis en place dans de nombreuses villes occidentales dès les années 1920, soit 40 ans avant le boom des allergies. Par ailleurs, on note que l'asthme allergique continue d'augmenter dans certaines villes d'Asie et d'Afrique, où les niveaux d'hygiène sont faibles. Autre élément pointé par les scientifiques, utiliser des probiotiques pour exposer le corps volontairement aux bactéries afin de sensibiliser le système immunitaire, s'est révélé inefficace. Et pourtant, ça paraissait une bonne idée, une très bonne idée. Aujourd'hui, les chercheurs élargissent leurs perspectives. Tellement de changements sont intervenus dans nos modes de vie ces dernières décennies parallèlement aux questions d'hygiène. Nous sommes exposés quotidiennement à un nombre énorme de nouveaux polluants toxiques et additifs, que ce soit dans l'air que nous respirons, peut-être dans l'eau de pluie aussi, dont on parlait tout à l'heure, dans notre alimentation, dans les produits de ménage ou nettoyants pour le corps, qui renferment détergents et tensioactifs. Une méta-analyse parue en 2020, portant sur 22 inventaires chimiques dans 19 pays, a ainsi révélé que plus de 350 000 nouvelles substances ont été introduites dans la vie humaine depuis les années 1960. Ouf, c'est un nombre effarant, n'est-ce pas?
Ça en fait des enzymes gloutons?
Ça en fait, oui. Et depuis le milieu des années... En fait, excusez-moi, sans, on n'a pas mesuré depuis les années 60, en fait, leurs effets sur la santé, ça n'a pas fait d'analyse approfondie. Et depuis le milieu des années 2010, une piste se dessine très nettement, celle de l'action délétère de ces produits sur nos barrières épithéliales. Je vous donnerai la définition juste après. Merci. Qui est censé protéger notre peau et nos muqueuses de l'extérieur et faire le tri entre les molécules autorisées à entrer dans notre organisme et celles qui doivent rester à la porte. Nos épithéliaces sont normalement des murs infranchissables quand cela est nécessaire, mais ils deviennent trop poreux, que ce soit au niveau de la peau, des poumons et des intestins. Alors, vous le devinez à la lecture de ces dernières lignes, c'est un ensemble de tissus qui recouvrent les surfaces externes de notre corps et qui tapissent aussi les cavités internes.
Oui, c'est un rôle de protection.
Exactement, Hélène. Une belle couche, là, mais qui devient, comme on le dit, poreuse. Plus poreuse. Et à ce moment-là, on absorbe plus toutes ces matières nouvelles. On n'a pas mentionné les vêtements, mais c'est la même chose. Hein. Tous les produits que l'on... Tous les vêtements que l'on produit avec l'élastane, etc., là, les vêtements de sport, c'est toutes des matières tellement... en évolution et nouvelles.
Sont pas bonnes pour nos épithéliaces.
Exactement. Alors, au cours des dernières années, la liste des principales substances capables de rompre les barrières de la peau s'est précisée. On parle de détergents, de produits de nettoyage, d'agents de rinçage pour la vaisselle, le dentifrice, dans lequel il y aurait un agent moussant, l'auryl sulfate de sodium. Il y a aussi les polluants atmosphériques, micro- et nanoplastiques, additifs alimentaires, et comme on le disait aussi, les tissus. Sous leur effet, de nombreuses molécules nouvellement rencontrées sont reconnues comme allergènes. Il est même possible de développer des allergies à des substances que notre corps connaît déjà pour un motif que l'on ne comprend pas. Ma sœur est devenue soudainement allergique au céleri, par exemple.
Ouais, c'est bizarre.
C'est vraiment bizarre, mais c'est problématique, surtout au restaurant, parce qu'il y a du céleri dans tout.
Allergique de façon très, très sévère, là?
Ah oui. Ah oui, totalement, oui. Alors, mais ce n'est toujours pas la fin de l'histoire. Depuis une dizaine d'années, nous voyons également un boom des publications montrant que les systèmes nerveux et immunitaires sont interconnectés et dialoguent en permanence. Donc, si on se focalise sur le volet immunologique sans considérer le système nerveux, on ne peut pas tout comprendre du phénomène allergique et de sa progression. Donc, les études, les recherches doivent se poursuivre en considérant ces deux volets. Ben, ça ne nous donne pas de solution à ceux qui souffrent de ces allergies qui sont vraiment, je dirais, embêtantes.
C'est le moins qu'on puisse dire.